Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, l'Église nous donne aujourd'hui l'Évangile sur la fin du monde, sur la chute de Jérusalem et la fin du monde. Ce qui domine l'annonce de ces terribles épreuves, c'est la venue du Fils de Dieu. Et voilà pourquoi l'Église nous fait lire ce passage de l'Évangile aujourd'hui, premier dimanche de l'Avent. Si vous le voulez bien, commençons par voir en quoi consiste cette annonce de notre Seigneur. Il y a une double annonce, à savoir la chute de Jérusalem et la fin des temps. Ces deux annonces sont mêlées exprès à dessein par notre Seigneur pour nous rappeler que la condition de la vie sur terre, surtout pour le chrétien, est une condition de lutte. Dès le début, le démon a été jaloux de la gloire donnée par Dieu à l'homme et aux chrétiens. Il a réussi à faire tomber le premier homme, et quoique le baptême nous restaure dans l'amitié divine, le baptême ne nous fait pas échapper à la lutte. C'est un point très important, cela, et qu'on a tendance à oublier. Il ne suffit pas d'être chrétien pour échapper à la lutte, ou plutôt, personne ne peut échapper à la lutte, même les chrétiens. Et ça serait une erreur, et je pense que c'est l'erreur de beaucoup de traditionnalistes, particulièrement, ceux qui suivent la Fraternité Saint-Pilice, de croire que grâce à, en s'étant mis du côté des traditionnalistes, ils échappent aux luttes. Ils échappent aux luttes du monde et aux soucis du monde. Ils croient qu'avec les bonnes écoles de la Fraternité Saint-Pilice, ils n'ont plus de soucis à se faire, que leurs enfants ne sont plus attaqués par le monde. Ils croient qu'avec les bonnes écoles, ils sont protégés, ou avec les bonnes chapelles, ils sont protégés contre le monde. Et c'est une première erreur, cela. La lutte fait partie de la vie chrétienne, et une lutte à mort, pourrait-on dire. Rassurez-vous, cet évangile n'est pas décourageant, au contraire. Mais il faut bien le comprendre si l'on veut profiter des encouragements qu'il nous donne. Et très certainement, c'est parce qu'on l'a mal compris ou parce qu'on n'y fait pas assez attention que finalement, on ne bénéficie pas des promesses que notre Seigneur a attachées à ceux qui prennent en considération cet évangile et qui acceptent de lutter. Ce fut un drame pour les Israélites, les Hébreux et puis même les premiers chrétiens que de voir la chute de Jérusalem, la cité sainte, celle à laquelle Dieu avait attaché tant de promesses, et voici qu'à cause de l'infidélité des Juifs, Jérusalem tombe, écrasée par les païens. Nous savons que Dieu va choisir Rome pour être la mère et maîtresse de la vérité dans le monde entier. Mais en 70, lorsque cela se produit, Saint-Pierre vient juste d'être crucifié, Saint-Paul vient juste d'être décapité, et on a plus une impression, si on n'a pas la foi bien sûr, on pourrait plus avoir une impression d'échec qu'une impression de transfert de la gloire de Jérusalem à la ville de Rome. Il va falloir attendre 313, l'édit de Milan, pour que l'Église commence vraiment à agir publiquement. Enfin, elle avait déjà beaucoup agi publiquement, mais avec liberté. Notre Seigneur nous annonce donc la chute de Jérusalem et il mélange cela avec la fin du monde. Quels seront les signes? Il faut prendre, je crois, dans un sens spirituel, il ne faut pas négliger le sens spirituel, Notre Seigneur nous dit qu'il y aura des signes dans le soleil, la lune, les étoiles, et il nous a dit dans l'évangile que nous avons lu dimanche dernier que les étoiles tomberont du ciel. Le soleil donne la lumière, il y aura des signes dans l'Église, l'Église qui donne la lumière. La lune réfléchit la lumière, ce sont les chefs de l'Église qui réfléchissent comme un miroir la lumière. Et les étoiles, ce sont les chrétiens, les saints qui brillent dans la lumière, mais même les chrétiens tomberont du ciel. L'Église, il y aura des signes. Évidemment, c'est une comparaison. Le soleil sera obscurci. Le soleil ne cesse jamais de briller, même obscurci, même lors d'une éclipse. Le soleil ne cesse jamais de briller. La foi, la vérité de Dieu, la sagesse du Christ, la sagesse éternelle, ne cessera jamais de briller. Mais elle sera occultée, y compris dans l'Église. Le soleil sera occulté. Et la lune ne réfléchira plus la lumière, c'est-à-dire que les chefs de l'Église ne transmettront plus la foi, qui est, alors que c'est leur seule fonction. Ils sont simplement des transmetteurs de la foi. Le Saint-Esprit, dit le Concile Vatican I, n'a pas été donné à Pierre pour inventer des doctrines nouvelles, mais pour garder et transmettre fidèlement le dépôt révélé. L'évangile de dimanche dernier, qui complète celui-ci, nous parlait également de l'abomination dans le lieu saint. Cela complète bien les choses. Les étoiles tomberont du ciel, c'est-à-dire que les chrétiens qui ont été pendant des siècles des étoiles pour le monde entier tomberont, s'éteindront. Il semblera qu'ils ne seront plus des modèles. Et cela est une cause de souffrance d'une part, et puis va désemparer les bons qui se demandent ce qui se passe, et puis désempare les autres. Ceux qui avaient l'habitude d'être malgré tout guidés par l'étoile, il est certain que, si l'on voit l'œuvre de la France par exemple, même la France républicaine a gardé un certain nombre de vertus chrétiennes qu'elle n'a pas pu arracher, que maintenant elle commence à arracher vraiment de façon radicale. Mais enfin, au XIXe siècle, on a vu la France qui continuait à briller de lumières qui n'étaient certainement pas les lumières de la République, ni même les lumières des Orléans, du roi des Français, prétendu roi des Français, qui étaient des lumières chrétiennes. Quelle doit être notre conduite dans la crise que notre Seigneur nous annonce ? Il l'a dit dimanche dernier, « Ne retournez pas dans votre maison, n'allez pas chercher votre manteau », et il nous dit aujourd'hui qu'il faut lever les yeux vers le ciel. C'est le même enseignement dans les deux cas. Dans le premier cas, il ne faut pas s'appuyer sur les choses de ce monde, sur les choses matérielles, sur les choses concrètes. Nous ne pouvons nous appuyer que sur la foi. C'est la grande tentation des chrétiens d'aujourd'hui de s'appuyer sur les moyens modernes, de s'appuyer sur les moyens matériels, sur les choses d'ici-bas, comme si on serait plus conquérant pour le Christ en étant, par exemple, plus nombreux, en faisant un parti politique, ou que sais-je. C'est oublier que dans toute vie, il y a un corps et une âme, et que c'est l'âme qui anime le corps, et que le corps n'a aucune puissance si ce n'est l'âme qui la lui donne. Notre Seigneur, aujourd'hui, nous dit de tourner les yeux vers le ciel. Et il nous précise même que notre rédemption approche et il nous demande de nous réjouir. Nous tournons les yeux vers le ciel en ayant la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous savons par l'évangile de dimanche dernier que notre Seigneur reviendra à la fin du monde, avec sa croix, qui sera un signe glorieux elle qui a été un signe d'infamie, sera un signe glorieux de la gloire de notre Seigneur, qui a été plus fort que ses ennemis, plus fort que la mort, et qui montrera ainsi que la manière de voir du monde était une manière fausse. Il n'y a que la manière de Dieu qui soit la manière vraie. Nous, nous voyons les choses d'en bas, nous avons cru, nous avons tendance à croire, heureusement pas trop si nous avons la foi, mais dès que la foi s'affaiblit, nous avons tendance à prendre la croix pour un échec. Saint Paul l'a dit, elle est une folie aux yeux du monde, alors qu'elle est la sagesse de Dieu. Et de même, à l'inverse, la folie de Dieu est vue comme une sagesse par le monde. Et c'est ce que notre Seigneur nous dit dans l'Évangile aujourd'hui. Ne suivez pas la fausse sagesse du monde, qui en réalité est une folie. N'allez pas vous appuyer sur les moyens du monde, appuyez-vous sur Dieu. Et Dieu paraît faible à ceux qui mettent leur foi dans la solidité concrète, matérielle. En réalité, il est plus fort que tout, puisqu'il est le Créateur, puisqu'il est Dieu, puisqu'il tient le monde dans sa main. Ce fut certainement la même épreuve pour les apôtres lors de la crucifixion, qui voyaient notre Seigneur, en qui ils avaient mis toute leur confiance, disparaître ainsi dans la mort, et ne se rendant pas compte que notre Seigneur continuait à vivre au-delà de la mort. Donc nous tournons nos yeux vers le ciel, c'est le chapelet, c'est la méditation. Vous allez me dire, mais justement, nous sommes privés des sacrements. Notre Seigneur ne nous dit pas « tournez-vous vers les sacrements », il nous dit « tournez vos yeux vers le ciel ». Pourquoi ? Parce que il faut bien comprendre que c'est la grâce qui tourne les yeux. Et voici quelle est la démarche. Le sacrement donne la grâce et la grâce tourne les yeux vers le ciel. Dans la crise, où les étoiles tombent du ciel, où le soleil est obscurci, où la lune ne donne plus sa lumière, les sacrements d'eux-mêmes sont obscurcis eux aussi, et notre Seigneur nous dit, mais ne soyez pas désemparés, la grâce est toujours là, la grâce est toute puissante, je la donne à qui me la demande. Il le dit ailleurs dans l'Évangile, jusqu'à maintenant vous n'avez rien reçu, c'est parce que vous n'avez pas demandé. Mais si vous aviez demandé, vous auriez reçu, car quiconque demande, on lui donne, quiconque frappe, on lui ouvre, et celui qui cherche trouve nécessairement. Et c'est une garantie de notre Seigneur Jésus-Christ. La prière et la foi nous donnent ce que nous cherchons. Malgré cette crise de l'Église, et l'Évangile de dimanche dernier était très clair sur ce point, si ces jours n'étaient abrégés, il n'y aurait peut-être personne à se sauver, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Et aujourd'hui, notre Seigneur, l'Évangile d'aujourd'hui, notre Seigneur est encore plus encourageant. Il nous parle du figuier dont les feuilles verdissent. Alors nous aurions plutôt tendance à prendre la fin du monde pour un automne, alors que notre Seigneur y voit un printemps. Nous aurions plutôt tendance à voir la fin du monde comme un hiver même, et notre Seigneur voit cela comme un printemps. Parce qu'il est vrai que c'est comme une naissance. L'enfant qui est dans le sein de sa mère, évidemment il n'est pas conscient, enfin, il est bien au chaud, bien douillet, il est nourri par sa mère, il n'a rien à faire, il est protégé de tout microbe, de toute infection par sa mère, et puis par tout ce que le bon Dieu a mis dans le corps de la mère qui protège l'enfant. Et il est bien en paix. Et puis, au bout de 9 mois, on lui dit « maintenant tu sors de là ». Tu sors de là et l'enfant entre dans ce monde dans lequel il est beaucoup moins protégé, apparemment. Un monde méchant, un monde d'adultes qui se battent, qui se font la guerre, etc. Et tout le monde sait que malgré tout, c'est une joie. Il entre dans ce monde et il avance vers la lumière et il avance vers Dieu. De même, la fin du monde va être pour nous une nouvelle naissance, et de même pour la mort d'ailleurs. parce qu'on pourrait faire un parallèle entre la fin du monde et la mort, est la véritable naissance. Et alors, lorsque la fin du monde arrive, notre Seigneur nous dit qu'il faut plutôt voir là un printemps plutôt qu'un automne ou un hiver. Notre-Dame a été très encourageante à Fatima. On le voit bien par la vie des petits-enfants de Fatima, qui fait partie de la révélation de Fatima, qui fait partie du message de la Sainte Vierge. Et bien sûr, il y a le message oral, mais on voit les fruits. Ces enfants qui ont reçu le message ont été transformés de peut-être un peu frivoles ou de tendance à la frivolité. Sœur Lucie en parle dans ses mémoires. Et les voici qui deviennent très recueillis. Eh bien, quiconque entrera dans les vues de Notre-Dame de Fatima, quiconque recevra ce message, et le message de l'Évangile, bien entendu, comme les enfants de Fatima, sera transformé, sera mûri, vivra de la foi, et vivra en compagnie de la Sainte Vierge. Et c'est ainsi que nous approcherons avec confiance, avec sérénité, de notre Seigneur qui sera terrible pour les méchants, mais qui sera objet de désir et de joie très vive pour les bons, en compagnie de la Sainte Vierge. En ce début d'année liturgique, nous préparons, c'est la conclusion de mon sermon, nous nous préparons à la venue de notre Seigneur, et l'Église a eu bien raison de nous faire lire cet évangile, qui est un évangile qui nous met sur nos gardes et en même temps nous fait vraiment voir la lumière. Pour résumer, si vous voulez, cet évangile nous rappelle premièrement, c'est ce que je vous ai dit, mais je résume, nous rappelle premièrement que la condition de la vie de l'homme sur Terre, c'est une condition de lutte dramatique entre le démon et Jésus-Christ, entre le démon et Dieu, que cette lutte ira tellement loin que si les jours n'étaient abrégés, les élus eux-mêmes ne pourraient pas se sauver, que le soleil sera obscurci, la lune ne donnera plus sa lumière et les étoiles tomberont du ciel. Ça, c'est le premier message. Ce qui est rassurant, parce que du coup, la situation présente est normale, elle est dans l'ordre. Deuxième partie du message de l'Évangile d'aujourd'hui, de notre Seigneur et de l'Église, lorsque ces jours arriveront, ne revenez pas dans votre maison, n'allez pas chercher votre manteau, que sais-je, mais fuyez dans les montagnes, c'est-à-dire sortez de l'esprit du monde, et tournez vos regards vers le ciel. La démarche absolument inverse des libéraux, qui, ne comprenant pas le message, essayent toujours de tourner le monde dans le sens de Dieu, mais veulent surtout pas se priver du monde, ni s'en couper, ni être en haine, en but avec le monde. Donc c'est la deuxième partie du message. Et c'est bien notre situation, à nous, de la fidélité. Nous avons osé quitter ce monde de la fraternité Saint-Pédis qui s'appuie trop sur les certitudes du monde au lieu de s'appuyer sur le bon Dieu. Je ne juge pas les individus, je constate un mouvement de la fraternité Saint-Pédis. Et effectivement, nous fuyons dans les montagnes d'une certaine manière. Certainement, nous sommes plus près du monde en réalité que d'autres, du vrai monde, c'est-à-dire de ceux qui cherchent Dieu. Donc nous avons fui dans la montagne, c'était le deuxième message, il ne faut pas que je recommence le sermon que je vous ai déjà fait, je suis en train de le résumer. Donc deuxième partie du message, ne retournez pas dans vos maisons, mais tournez vos regards vers le ciel. Et troisième partie du message, réjouissez-vous, votre délivrance approche, c'est le printemps, regardez le figuier, il verdit, les feuilles verdissent, vous savez que votre délivrance est proche. C'est cela que la Très Sainte Vierge nous a rappelé à Fatima. C'est dans cela que nous entrons. Que Dieu vous bénisse, que la Sainte Vierge soit avec vous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.